Explore, un podcast de l'Église évangélique réformée de Suisse pour découvrir l'Église qui arrive et un monde transformé par la foi. Bienvenue à vous tous et toutes pour ce dernier épisode de la saison 2 d'Explore. Je suis encore avec Sophie. Bonjour Sophie.
Salut.
Et puis avec Dimitri.
Salut.
Voilà. Dernier round. Puis après, on verra ce que l'avenir nous réserve. On a essayé, durant cette saison, d'explorer cette foi chrétienne en partant de nos expériences, de nos récits de vie. Et on arrive à la fin. Et puis, à la fin, on ne peut pas ne pas thématiser la fin. La fin de cette saison, mais justement aussi la fin de la foi. Qu'est-ce que ça... Quel sens on peut y mettre, le rôle de la fin dans la foi. Donc, on tournera autour de cette thématique-là dans cet épisode. Et c'est moi qui m'occupe de la chronique. Je me suis fait appeler le Joy Killer en off. Je ne sais pas si c'est...
Pardon, Elio.
Je ne sais pas si c'est mon rôle dans cette saison d'être le Joy Killer, mais effectivement, est-ce qu'on arrivera encore à garder de la joie en nous confrontant à la fin? C'est un peu peut-être une question que je lance comme ça, mais en fait, ma réponse serait oui. Et je vais vous dire un peu dans quelle direction ça veut aller. Mais d'abord, un petit bout de rétrospective, parce qu'on ne peut pas parler de la fin sans peut-être aussi regarder en arrière et est-ce que la fin nous permet de voir, en fait. Une des missions qu'on avait pour ce podcast, c'était d'offrir un espace d'échange et de découverte sur la foi chrétienne. Du coup, on a commencé en parlant de nos parcours de foi. Et puis après, on a pu se découvrir. Déjà, on s'est découvert là-dedans parce que c'était pour nous une première fois qu'on faisait ça. Donc, déjà beaucoup de choses qui ont émergé là-dedans et qui, je pense, sont revenues au fur et à mesure des épisodes. Et au fond, les différents thèmes qu'on a déclinés par la suite étaient comme des manières de revisiter aussi à chaque fois un bout de ce parcours ou des éléments de ce parcours. On a parlé de la vie chrétienne, on a parlé du péché, du mal. On aurait pu parler plus longuement du mal, mais je crois que le thème est revenu assez régulièrement. On est revenu sur le rôle de la figure de Jésus, comme maître, comme plus qu'un maître, sur le royaume, sur la joie, sur l'Église, la vérité, le miracle, les limites de la foi, Dieu inacceptable, mais on n'a pas parlé de la Trinité. Et puis maintenant la fin. Voilà ce gros parcours qu'on a fait sur une douzaine d'épisodes. Maintenant, arrivé à la fin, je dois dire qu'on aurait pu en fait encore faire tout autrement. Alors, vous le savez pas, mais mes collègues suisses-allemands ont aussi fait, se sont aussi prêtés à l'exercice de faire un podcast j'ai plus le nombre exact d'épisodes en tête, mais aussi une dizaine d'épisodes autour de la thématique de la foi. Mais eux, ils ont pris un autre parti pris, ils sont allés au fond suivre quelque chose de plus pédagogique peut-être que ce que nous on a fait. Ils ont pris le symbole des apôtres. Je ne sais pas si ce texte vous dit quelque chose, mais c'est ce texte qui dit « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, etc. etc. » Je crois à l'Esprit Saint, je crois à l'Église universelle, à communion des saints, rémission des péchés, etc. Et au fond, avec cette idée que là, on a une armature qui permet de présenter de manière cohérente le contenu de la foi chrétienne. C'est clair, et c'est clair qu'en faisant ça, au fond, ils ont, qu'est-ce qu'il faudrait dire, quelque chose d'un peu plus exhaustif. On parle tout de suite de la Trinité en parlant de Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, alors que chez nous, en off, on en a parlé régulièrement, mais j'ai pas l'impression que c'est apparu comme un sujet en tant que tel de nos discussions. Je me trompe pas si je dis ça, je check avec vous, mais c'était pas un sujet en tant que tel, alors que les trois, on est en même temps d'accord pour dire que oui, ça fait partie de la foi. De la foi chrétienne aujourd'hui que de se confronter, de faire quelque chose de ce thème de la Trinité.
Ouais, c'est vrai que j'ai échangé un regard avec Dimitri en mode « Ah oui, c'est vrai, on a pas parlé de ça. Ouais. » Mais peut-être que c'est parce que pour nous, c'est pas une question.
C'était en tout cas pas une question dans l'immédiat de ce qui nous préoccupait dans nos préparations. Et puis voilà, on voulait partir justement de cette base un peu plus expérientielle de nos préoccupations aussi quotidiennes. On aurait pu aussi choisir de pas partir d'une tradition, mais de plus... partir d'un texte. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas juste lu la Bible, par exemple? C'est quoi la meilleure introduction à la foi que de se mettre à l'écriture et à de la discussion autour des textes bibliques, par exemple? Peut-être c'est ça qu'on aurait dû faire. Dimitri, tu avais évoqué aussi en off qu'on aurait dû peut-être lire des textes de mystique. Qu'au fond, parler de la foi, ce serait juste de le faire en partant de ces textes d'auteurs mystiques, voilà, qui inspirent d'ailleurs pas mal de gens aujourd'hui, qui éveillent de l'intérêt. Tiens, d'ailleurs, je te lance là-dessus, tu avais pensé à ça à un moment donné.
Oui, c'est vrai, parce qu'au fond, c'est à la limite de la foi elle-même,
ah, c'est ça,
que le mystique. Et au fond, ça aurait été une manière de pousser notre discussion sur la foi à son extrémité.
C'est ça. Et essayer peut-être même, du coup, depuis cette extrémité, de la relancer. On recommence, en fait, encore une fois, à partir de l'endroit où on se heurte aux limites de notre discours, et de ce qu'on peut dire à partir de notre expérience, notamment. Mais bon, pourquoi je parle de ces manières, au fond, on aurait pu faire les choses autrement, c'est, pour moi, dans cette question, dans cette affirmation, il y a quelque chose, justement, d'une confrontation à la finitude qui se joue. On peut recommencer sans cesse. On pourrait recommencer tout un parcours sur la foi. Ou plutôt, peut-être pour vous qui écoutez, vous pourriez aussi recommencer. Je pourrais vous indiquer tout un tas. Il existe d'autres offres de podcasts, d'articles, de livres, de vidéos qui vous offrent des introductions à la foi chrétienne. Il faut que je dise, mais maintenant, allez lire ça, allez lire ce truc, allez vous replonger encore une fois dans le sujet qui vous l'apporte d'une manière encore différente. Et puis, enrichissez-vous de ces parcours, approfondissez le sujet. Et en même temps, je me demande des fois si le fait d'avoir cette option, cette possibilité de recommencer sans cesse le parcours, si c'est pas aussi une manière justement de fuir la finitude de ce qu'on propose, de ce qu'on peut proposer en matière de discours de foi, de réflexion sur la foi. Et c'est clair que chez moi, la finitude, ça évoque quelque chose, je me divulgue, quelque chose de l'insuffisance. C'est à ça que je pense d'abord. Oui, il faut recommencer parce que ça suffit pas. On n'a pas été assez exhaustif. On n'a peut-être pas pris le bon angle, on n'a pas dit tout ce qu'il fallait dire sur le sujet. Il y a des choses dont il aurait fallu parler qui sont restées dans l'ombre, ou même peut-être que notre approche dans l'ensemble s'avère insuffisante. Est-ce qu'il ne faudrait pas recommencer par la tradition? Voilà, j'ai dit le symbole des apôtres pour offrir quelque chose, une armature un peu plus solide à celles et ceux qui nous écoutent. Donc voilà, la tentation de recommencer encore et encore, peut-être comme une manière de fuir la finitude et de ce à quoi elle me confronte, elle nous confronte, notamment quand il s'agit de parler de la foi. Et c'était une discussion justement qu'on avait eue aussi, de se dire, mais au fond, est-ce qu'à un moment donné, peut-être aussi à notre époque, en tout cas dans une certaine génération, peut-être la génération qui me précède, ceux qui ont 50-60 ans maintenant, est-ce qu'on n'a pas eu affaire à un moment donné une forme de fatigue de la foi? Une foi qui doit toujours chercher à se dire, à se prouver, à se valoriser dans une société qui est quand même sceptique par rapport à elle. Est-ce qu'à un moment donné, on ne se heurte pas au fait que le christianisme s'est fatigué à force de toujours essayer de se justifier? Et puis, au fond, on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait en dire de sensé. Aller lire tout ce qui a été fait, c'est bon, il n'y a pas besoin de dire quelque chose de nouveau, quoi. On pourrait dire ça, et du coup arriver à juste une espèce de pratique face à cette finitude. Au fond, on a quoi? On a des restes à relire, des traces à relire, mais rien de nouveau à dire. Et en même temps, ça rentre fondamentalement, à mon sens, en tension avec autre chose, qui est un appel à la mission, un appel au rayonnement que j'entends dans la foi, un appel à quelque chose de plus grand qui va encore advenir. Donc qu'est-ce que c'est que cette tension face à la finitude? Et je pense que justement, dans ce thème de la finitude, dans la foi chrétienne, on est capable de rentrer, en fait, dans, pour moi, ce qui est une confrontation à l'insuffisance. Peut-être que ce sera d'autres thèmes pour d'autres personnes, la mortalité, le fait que les choses se terminent à un moment donné. Il y a l'appel à la mission, et en même temps, comment est-ce que cet appel à dire quelque chose, ce n'est pas juste céder à une pression de la fuite face à la finitude? Je suis allé voir ce texte, peut-être qu'il vous dit quelque chose, l'expression « ma grâce te suffit ». J'ai vraiment pensé à cette phrase « ma grâce te suffit » en me disant, mais au fond, je suis confronté à l'insuffisance de mon propos. Je me dis, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu faire mieux autrement? Et je me dis, non, mais ma grâce te suffit, et ça... Comme une parole que je reçois de Dieu, en fait, par rapport à finalement qui je suis et ce que je porte. Et c'est littéralement une parole de Dieu. C'est une. Il faudrait la lire au complet. C'est dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 12. C'est Paul qui dit « Ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit au sein de la faiblesse. » Et c'est drôle, parce que c'est vraiment dans ce moment-là, quand Paul parle de ça, c'est une parole qu'il aurait entendue, donc dans une espèce d'expérience mystique, confronté un bout à ce qu'il vit. Il reçoit cette parole « Ma grâce te suffit, c'est dans la faiblesse, ma puissance s'accomplit au sein de la faiblesse. » Je veux resituer un tout petit peu juste le contexte de cette phrase, parce que je pense que c'est intéressant par rapport à cette thématique de la finitude et de la fin pour la foi. Dans ce cadre-là, bon, Paul, c'est un créateur de communautés. Il a diffusé la foi dans le bassin méditerranéen, il a créé des communautés. Et à un moment donné, il entretient une relation avec ces communautés et il est confronté au fait que d'autres, ces communautés sont en interaction avec d'autres gens, il y a d'autres leaders, il y a d'autres figures qui sont intéressantes pour nourrir la foi. Et notamment des figures qui paraissent sans doute plus fortes, plus pertinentes, plus percutantes que ce que Paul a pu apporter. Et voilà, du coup, Paul se retrouve embarqué dans un truc où il lutte en fait pour sa légitimité. Il lutte pour la légitimité de son propos et de son lien à cette communauté. Et du coup, bon, je ne vais pas rentrer complètement dans le détail, mais il en vient à dire, j'aurai de la légitimité, j'ai notamment des expériences, moi aussi j'ai des expériences de foi fortes ou des expériences mystiques que je pourrais utiliser pour justifier ou pour ancrer ma légitimité. Et en fait, il en vient avec cette phrase, ce qui rejaillit finalement ce qu'il va repiquer de cette expérience mystique, c'est cette phrase, ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit au sein de la faiblesse. Et au fond, comme une manière... Alors, comment est-ce qu'il faut comprendre ça? Non pas une manière de retourner quoi, le problème, c'est-à-dire de faire de ce moment d'insuffisance, moi maintenant, faire du moment d'insuffisance, non pas un signe de faiblesse ou d'échec, en fait, de la proclamation de la foi et de ce qu'elle apporte, de ce qu'elle vit, mais comme un lieu à partir duquel... au contraire, on s'affirme. Donc quelque chose, pour moi, je vais le dire comme ça, à approfondir. Il y a après toute une réflexion sur le fait qu'il a été tourmenté par ce qu'il appelle une charde dans la chair, et que en fait, finalement, il est confronté à devoir habiter cette situation que Dieu n'enlève pas d'un claquement de doigts, simplement. Pourquoi j'ai voulu faire le détour par ça? D'une part, parce que c'est ce que moi j'entends, je suis insuffisant, mais ma grâce te suffit, et puis vers quoi ça m'emmène? Au fond, dans la foi, il y a un élément face à la fin qui est de consentir à une fin, consentir à la finitude. Et non pas comme une manière, alors parce qu'on pourrait le voir comme ça, c'est comme un retournement rhétorique, je prends ma faiblesse et je la transforme en force, non. C'est vraiment de rentrer et d'approfondir ce point où je suis confronté à ma limite, à... au point où je ne peux pas aller au-delà d'un certain point à partir de moi-même. Je suis fini, je suis délimité, je suis limité. Et je ne pourrai pas recommencer aussi à un certain moment. Il y a un point où ça s'épuise et ça ne pourra pas relancer encore une fois. Et au fond, l'invitation à partir de là, c'est rentrer dans un cheminement que je dirais spirituel. Parce qu'au bout de ce chemin... de confrontation à la finitude, qui devient aussi un consentement à la finitude, il y a, et moi je dirais, c'est sans doute ça qu'il faut dire face à la fin, il y a une action de grâce, quelque chose qui est du registre du remerciement, du partage libre, joyeux. Au fond, c'est que même dans le consentement à cette finitude, je découvre les ressources pour dire oui et de me réjouir de quelque chose d'encore plus grand que simplement ce qu'il m'est donné là, tout de suite. Dans l'insuffisance, il y a la suffisance, ça suffit, et ça rayonne encore au-delà. C'est une parole qui vient depuis... C'est une perspective d'éternité, mais c'est aussi une perspective pour le bordel dans lequel on vit. C'est que dans le bordel dans lequel on vit, et qu'il ne s'agit pas de fuir, en fait... Il y a un consentement à ce bordel. je reçois, je dis un merci grand et joyeux et que je peux partager, qui ne reste pas enfermé chez moi. Et ça, ça devient peut-être une espèce de boussole après aussi, qui me fait pas quitter cette finitude qui me confronte, mais qui me permet en fait de continuer à l'approfondir. Alors au moins, ça serait justement une bonne raison de recommencer, en fait, encore une fois, un parcours sur la foi. Pourquoi ? Non pas parce que ça suffit pas ce qu'on a dit, mais parce que le partage peut continuer, parce que le partage d'une espèce de joie miraculeuse qui s'infiltre dans les lieux les plus difficiles de la vie, ça vaut la peine de continuer à le faire. Même jusqu'au point où il y a un dépouillement total, où au fond on n'arrivera plus à tirer quelque chose, peut-être même de l'expérience, même jusqu'à ce point-là, au fond, la promesse que, de ce oui que Dieu me donne, de cette grâce qui suffit, elle persiste. Même dans le dépouillement de soi, dans le dépouillement de la tradition, dans le dépouillement des textes, peut-être aussi. Donc pour moi, ce serait une bonne raison, en fait, de recommencer le partage de cette joie-là, quoi. De cette joie-là qui persiste et qui ne se laisse pas étouffer sans pour autant nier que les choses sont compliquées, les chances sont insuffisantes, les choses sont difficiles et qu'on fait face à des contradictions, des fois, qu'on n'arrive pas à dépasser. Et ça, ça vaut la peine de recommencer encore une fois. Face à la fin. Ça, c'était un des rapports auxquels on est amené, pour moi, dans la foi chrétienne, face à la fin. Et ce que je voulais vous proposer en guise d'impulsion pour notre discussion.
Bah, merci déjà pour cette méditation. Moi, je vois que tu penses la fin à partir de quelque chose qui est, tu l'as dit au début, d'inaccompli. Mm-hmm. Qu'il y a un idéal derrière ce projet déjà, derrière ce projet de discussion, ce projet de discussion sur la foi et ce projet théologique. Mm-hmm. Et on sent quand même une forme de doute et d'amertume sur le fait qu'il aurait fallu, il aurait été possible de dire plus ou de faire encore mieux. Et puis en fait, t'essayes de, si je comprends bien, hein, d'accepter malgré tout le fait que ce ne soit pas parfait, et qu'en fait ce soit le signe pour toi d'une finitude finalement à accueillir, à accepter, et en fait une sorte de lâcher prise aussi. Et en fait, pour compléter hein, toute cette approche qui relie la finitude à une certaine idée de la perfection, de l'accomplissement encore une fois, je dirais, pour compléter, que la finitude, c'est... Est-ce que son contraire, c'est vraiment la perfection ? Enfin, on peut se poser la question. C'est vrai que c'est une discussion, hein, c'est complètement ouvert, hein, à ce niveau-là, mais... de mon point de vue, la finitude ne fait pas question.
Ce ne serait pas ça le point auquel tu te heurtes.
Oui, exactement. Je ne serais pas heurté par le fait qu'il y ait quelque chose, un idéal qu'on aimerait voir surgir, et surtout quelque chose qui serait complet, à savoir la possibilité d'offrir un parcours de foi exhaustif. Et d'ailleurs, à ce titre, vu que nous sommes tous finis, nous serions tous en situation de devoir nous excuser d'être finis. Quelque part, puisqu'au fond, on est dans un rapport de déficience par rapport
constant.
Et en fait, oui, bien sûr, il y a un travail à faire pour accepter cette finitude. Mais de mon point de vue, la finitude est un fait. Et surtout, du point de vue de notre projet, il était initial, en fait. Il n'y avait jamais de... Je pense qu'on n'a jamais eu la prétention, hein, à la base, de pouvoir offrir quelque chose qui soit entier.
Ne sachant même, d'ailleurs, au départ, pas tout à fait où on allait atterrir.
Voilà, exactement. Donc, en fait, la finitude est vraiment, de mon point de vue, un accueil qui est initial. Moi, je dirais déjà ça. Pour commencer.
Merci. Je rebondis là-dessus parce que indépendamment maintenant effectivement du parcours qu'on a proposé, c'est une vraie question qui m'habite en ce moment sur la logorrhée constante du christianisme sur lui-même. Mmh. Et le fait qu'apparemment, il y a aussi une recherche de nouveauté. On a toujours besoin de redire les choses. On a toujours besoin de redire cette fois. Quelque part aussi de la justifier, ou de la rendre crédible, de l'actualiser. Voilà, je suis interpellé par ça, du coup. Sophie.
Ouais, je suis aussi un peu interpellée par la thématique. Quand tu parlais, moi je me disais, pour moi la question ça a rarement été recommencer, parce que je crois qu'au fond, des fois on parle de recommencement, mais voilà, la question c'est plutôt comment continuer. Après il y a quand même la dynamique de mort et de résurrection qui est très ancrée chez nous. Ouais, j'arrive pas à savoir à quel point. Enfin, en fait, ça résonne pas trop avec l'expérience que j'ai des discussions qu'on a vécues ensemble. Mmh, mmh. Mais en t'entendant, j'ai pensé à une phrase un extrait d'un texte de Charles Ferdinand Ramu, mmh. qui est tiré d'une nouvelle qui s'appelle Symétrie, que il m'est eu arrivé d'utiliser en service funèbre. Mmh, mmh. Donc peut-être que c'est un petit peu dans la thématique quand même. Et il dit, il écrit, c'est hyper touchant, il écrit à... Il doit déjà avoir une quarantaine d'années, quelque chose comme ça. Enfin, c'est quand même un homme qui a vécu des choses. Il n'a pas 22 ans, quoi. Et puis, il assiste à la naissance de sa fille. Mmh. Et il écrit ce texte à la naissance de sa fille. Et en fait, c'est une méditation sur la vie qui naît, qui advient, et en même temps, la conscience de la mort. Mmh. Et on peut trouver ce texte très, très négatif, mais moi, je le trouve très, très beau, parce qu'il se termine sur, justement, cette symétrie qu'il y a entre le grandissement, monter en puissance, mûrir, une forme de point culminant qui, peut-être, il devait avoir conscience d'avoir atteint à l'âge qu'il de avait où il écrit. Ouais, ouais. Et puis, cette notion que le reste, ça va sur le déclin. Mais quand il parle de déclin, il parle du contentement. Et il y avait un petit peu de ce que tu disais aussi dans consentir aussi au fait que, ben oui, les choses vont vers leur fin, les choses se terminent, etc. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très beau et de très, très apaisé qui fait tout à fait écho au grand âge aussi. Consentir au grand âge, c'est pas chose facile. Mais on peut trouver une joie. Et il en parle vraiment comme une espèce de montagne que tu gravis, et puis après tu vas vers la descente, quoi. C'est très très beau. Il dit notamment ceci: c'est à cause que tout doit finir que tout est si beau. C'est à cause que tout doit avoir une fin que tout commence. C'est à cause que tout commence que tu as connu le grand émerveillement. Et il parle ensuite de l'expérience du bébé qui s'émerveille de tout, quoi. Enfin, qui rit, qui a ses petites mains qui cherche à attraper des objets, etc. C'est hyper touchant, ce rapport-là. Et pour moi, dans la notion de la finitude, il y a cette notion-là de finalement le fait de devoir terminer, ça implique qu'on a commencé. Alors c'est hyper banal de le dire, mais quand on saisit la profondeur de ce que ça signifie, c'est hyper puissant. De dire, ben, en fait, dans peut-être, on a souvent cette projection d'un idéal dont tu parlais, Dimitri. Mais si on voit les choses en termes que de manque par rapport à un idéal, c'est très ancré chez moi aussi, hein, mais on se gourre complètement, parce que l'enjeu, il n'est pas du tout là. Moi, je crois que Dieu nous a voulu tel qu'il nous a voulu, aussi faillible et capable de faire des mauvais choix, mais ça veut dire aussi capable de faire des choix. Et en fait, cette finitude, elle est ancrée tellement profondément en nous, mais c'est cette finitude-là qui fait que j'ai commencé, qui fait que je suis née, qui fait que j'ai le corps que j'ai, qui me permet aussi d'expérimenter la joie, etc. Donc, plutôt dans cette dynamique-là autour de la joie, de la possibilité du commencement, de la possibilité de poursuivre sur un élan. Je pensais aussi au moment de... Enfin, moi, j'associe ça au moment de nostalgie que je peux avoir J'ai vécu ces derniers temps des expériences de communauté très très intenses sur des temps très courts, à l'armée, à l'Assemblée générale de la Communion mondiale des Églises réformées. Et voilà, c'est des expériences qui sont fortes, qui sont denses, qui sont magnifiques. Puis quand on arrive à la fin, moi je me souviens de deux moments très particuliers dans ces deux cas, d'expérimenter un moment de joie, en l'occurrence la remise du drapeau à l'armée et puis le culte de clôture de l'Assemblée, où c'est des moments qui sont très très joyeux. Et moi, en même temps, qui suis saisie de cette tristesse, de cette émotion de se dire « Ah, mais c'est fini, en fait. Mais en fait, c'est le moment où la densité de cette expérience, elle s'ancre dans le corps. De dire « J'ai vécu un truc de fou dans l'une une des communautés que je citais et l'autre. Ok, c'est en train de s'ancrer en moi. Et en fait, la finitude, c'est aussi la possibilité pour des expériences fortes de s'ancrer en nous, quelque part.
Ouais, c'est ça. Je le métabolise. Hein,
voilà, c'est ça. Et ça s'ancre en moi et ça fait partie de moi. Et c'est Alain Damasio, qui est un auteur de science-fiction français, plutôt anticlérical d'ailleurs, qui parlait de la mémoire. La mémoire, mais pas la mémoire d'un ordinateur. La mémoire organique. La mémoire d'un cerveau humain. Avec aussi tout un tas de choses qui s'effacent, qui disparaissent. Et c'est peut-être ça la question à se poser par rapport à ce qu'on a vécu là, de ces discussions, par rapport au fait que des gens nous ont peut-être écoutés, etc. Qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qui s'ancre dans notre mémoire? Qu'est-ce qui vient de manière durable imprégner notre être, notre... Enfin, je sais qu'on a eu quand même des discussions profondes. Alors, moi, je dirais, ouais, dans notre âme, dans... Qu'est-ce qui nous a permis de toucher quelque chose, peut-être, que moi, j'associe à la densité d'une forme d'éternité, mais qui vient s'inscrire profondément dans notre finitude à nous.
Oui, parce qu'elle continue à être là. Enfin, l'horizon de la finitude, certes, il y a quelque chose qui, là, se termine, et en même temps, j'ai encore une fin devant moi, entre guillemets.
C'est ça. Et c'est là où la remarque de Damasio est hyper intéressante par rapport... il disait, mais en fait, on ne sera jamais supplanté par la machine, quelque part. Parce que la machine n'a pas cette capacité à être émue, à au fond, oublier, faire abstraction de tout un nombre d'informations qui, finalement, si elles se mélangent, si elles disparaissent, on retient tous exactement tout, mais qu'est-ce qui reste et quelle est la densité de ce moment qui reste? Et des fois, c'est des trucs pire anodins. Une petite phrase, moi j'ai ça aussi avec les prédications. On prêche, on dit plein de trucs, et les gens retiennent un truc qu'on trouve insignifiant as fuck, qui n'était pas du tout le
cœur de l'affaire.
Le cœur de voilà, du
c'est
du
pas
truc.
Ça qu'on aurait voulu que les gens retiennent.
Exactement. Et donc, c'est plutôt ça qui est intéressant. Et aussi, comment enfin, je ne vais pas faire la Madeleine de Proust et puis la référence hyper bateau, mais oui, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi, de tout d'un coup, un moment qui rejaillit des tréfonds de notre mémoire, etc. Peut-être qu'on aura vécu un moment comme ça aussi dans nos discussions.
Mais il faut ce moment de la fin. C'est-à-dire, si je ne m'accorde pas de dire, OK, il y a une clôture, il y a un truc qui s'arrête maintenant, et stop. Et je ne vais pas revenir là-dessus. Enfin, je ne vais pas modifier. Je ne vais pas pouvoir le réviser. Je ne vais pas pouvoir le...
Oui, mais c'est pour ça que le terme de recommencement ne me convenait pas tout
à
fait.
Oui, je comprends.
Surtout qu'on peut réécouter le podcast. On pourrait un peu se refaire le... On s'est inscrit aussi dans une forme de pérennité grâce à ces enregistrements. Discussions sont... Voilà, elles sont consultables. Moi, j'ajouterais vraiment à ta belle réflexion... Oui, au fond, le problème aussi que tu as souligné, vous l'avez souligné les deux en filigrane, c'est que si on a besoin de parler de la finitude, c'est parce qu'on a tendance, peut-être, à vouloir l'oublier, en fait. Et je pense que cette finitude nous échappe aussi dans une certaine mesure quand on est bien installé dans nos vies. Parce qu'en fait, on est dans une forme de perpétuel présent où tout se répond un peu. Ça veut dire que si on a gardé le même métier dans la même institution pendant 40 ans, vous avez à peu près les mêmes collègues ou... Enfin, il y a une continuité et du coup, vous êtes moins confronté à une forme de nostalgie que tu as souligné justement à cet égard. C'est qu'en fait, c'est lorsqu'il y a des moments de nouveau de décalage, de distanciation, quand on fait un voyage et qu'on revient, ou un long voyage et qu'on revient, on se rend compte que les choses ont un petit peu changer, et puis on peut être un peu nostalgique, peut-être, des expériences qu'on aurait vécues dans un lieu qui aurait disparu. Ça m'a fait le coup, ça ne me fait pas le coup souvent, mais ça m'a fait le coup parce que j'ai étudié à Göttingen, et j'ai découvert que les bâtiments dans lesquels j'avais
donc
vécu,
en Allemagne, c'est une
en Allemagne à Göttingen, a été rasé. Pourtant, c'était un bâtiment tout à fait moderne. Hein. C'était vraiment... voilà, il venait de... Quand j'y étais, il était neuf et ils l'ont détruit assez rapidement. Et là, ça m'a fait bizarre parce que je me dis, c'est la première fois qu'un lieu dans lequel j'ai vécu a été complètement rasé. Et ça m'a rendu, pour la première fois, nostalgique par rapport à cette époque, qui pourtant, voilà... Et c'est vrai que les nostalgies, les moments voilà, qui sont considérés comme révolus, sont des mini prises de conscience, on va dire, qui sont constitutives, tu as raison, je pense, de cette finitude. Le fait que nous puissions plus revisiter un endroit où on a vécu, c'est confrontant. En Suisse, on a de la chance, je trouve.
On est dans des continuités,
assez fortes. C'est-à-dire que les villes, les villages... Alors, on construit toujours des choses un peu... mais disons qu'on est dans un environnement relativement stable et assez protégé.
Bah, c'est là qu'on comprend le drame de l'incident à Blatten, etc. Le drame symbolique.
L'effondrement de la montagne sur un petit
voilà,
village.
Ouais. La montagne qui s'écrase et qui détruit un lieu de vie. Ce n'est pas des images auxquelles, comme tu disais, on n'est pas confronté en Suisse. Et peut-être que c'est un immense privilège, parce qu'en fait, en Suisse, il y a plein de gens qui habitent, qui ont connu... voilà, qui sont issus de l'immigration, qui ont dû fuir des situations de guerre, etc. Puis c'est avant tout la destruction.
Disons que nous pouvons nous protéger de la finitude plus ou moins bien, selon les circonstances. Hein. On peut vivre des choses très dures, et effectivement, on ne peut pas s'en protéger complètement. Mais il y a aussi une nécessité, là, peut-être que je vais un peu à contre-courant. On a besoin d'oublier qu'on est fini. Parce qu'en fait, ce rappel constant de l'hubris, de la volonté de se faire, de se rendre égaux aux dieux et de vouloir justement, de vouloir toujours,
d'oublier qu'on est de la poussière.
Exactement. Ce constant rappel sous-entend qu'on l'oublie tout le temps. Mais c'est important de se dire, mais finalement, pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'oublier aussi pour vivre? Sinon, je ne sais pas, si je n'oubliais pas ma finitude en permanence, je serais dans une tristesse constante. Je veux dire, ce serait une... Je serais dans de vraiment... Mes plaies seraient ouvertes constamment. Je ne ferais que de sous-peser tout ce que j'ai perdu ou pas accompli. Parce qu'en fait, il y a aussi la vie qu'on aurait souhaité avoir et puis qu'on est en train de réaliser. Tous les échecs. Les échecs sont aussi les signes de la finitude. Peut avoir une vie tout à fait réussie et en fait, être pétri d'échecs intérieurs. Enfin, j'en sais rien. Mais l'idée, c'est que j'ai, en tout cas, pour ma part, besoin de croire que ça ne va pas s'arrêter. Alors, je ne me fais pas d'illusions sur le fait que nous sommes tous mortels. C'est pas du tout, une sorte de témoignage de grandiose. Pas du tout. C'est l'idée qu'en fait, pour pouvoir rejoindre le présent, pour pouvoir être vraiment là, quelque part, et c'était un peu le projet stoïcien aussi, fallait pouvoir rejoindre une forme d'éternité, en tout cas une certaine idée d'une stabilité qui nous met en corrélation plus forte avec quelque chose qui est immortel quelque part. Et d'ailleurs, toutes les méditations stoïciennes ou même le fameux carpe diem, en l'occurrence, c'est une prégnance du présent par la méditation. C'est vraiment une adhésion pleine et entière du présent qui n'est pas une jouissance du présent, on est d'accord. Hein, c'est pas le carpe diem au sens d'un hédonisme, mais vraiment du fait de coller
au présent.
Alors, c'est bien qu'il y a quelque chose aussi qu'on appelle, aussi dans les théories politiques actuelles, qu'on appelle le présentisme. Donc, il y a une sorte d'encouragement généralisé à être dans ce présent-là. Mais il y a aussi une sagesse à être dans le présent. C'est pas... Parce qu'en fait, elle nous protège, quelque part, ce présent, pour ma part, d'une trop forte exposition... À cette finitude que je ne connais que trop bien, finalement. C'est comme si je n'ai pas besoin de leçons de finitude, quelque part.
Je pense que ça dépend un petit peu des gens.
Bien sûr.
Et de leur manière de fonctionner aussi. Et pour ma part, qui ai eu aussi à une époque des montées d'angoisse par rapport à ma finitude, on va dire ça comme ça, je retrouve aussi une joie, justement la joie des souvenirs, la joie d'avoir conscience que derrière moi, avec les années, et ça c'est quelque chose qui est assez nouveau aussi, c'est une des raisons pour lesquelles je pense que faire lire Proust à des gens trop jeunes, ça n'a pas d'intérêt.
Sens, ouais.
Parce que tu ne peux pas comprendre ce que c'est que d'avoir des souvenirs, justement, qui t'habitent ou qui rejaillissent à ce point-là. Mais c'est aussi cette joie-là de redécouvrir des souvenirs, d'avoir au fond, derrière soi, tout un tas d'expériences finies.
Mmh.
Et aussi d'avoir conscience que chez les autres, quand quelqu'un vient à nous, vient avec lui, avec elle, un trésor d'expériences et d'histoires et de passé qu'on ne peut pas soupçonner dans le présent, dans la densité du moment, mais qui en fait, que la personne apporte avec elle. Donc c'est aussi une richesse énorme que ces expériences finies. Ouais.
Et puis que la joie, justement, si je reviens quand même sur cette joie, elle ne se trouve pas uniquement là. Il y en a dans le passé, il y en a dans le futur aussi. J'insiste un peu là-dessus en contrepoint de ce que tu dis, Dimitri, parce que c'est revenu plusieurs fois sur pourquoi est-ce que c'est tellement dramatique la foi chrétienne, pourquoi est-ce qu'on a constamment du tragique qui nous pend au nez quand on s'engage sur ce chemin-là. Et au fond, alors oui, je pense qu'elle peut aussi insister sur ce temps de la plénitude au présent. Dans l'évangile selon Jean, c'est très présent. C'est un amour qui est vécu là, maintenant, malgré en fait toute une contradiction réelle de ça, mais il y a la confiance en un amour là, quoi. En même temps, un aiguillon qui persiste, quoi. Je pense que tu vas pas sans l'aiguillon. Et moi, ce que j'entends, en tout cas pour ce qui est une perspective de foi par rapport à cet aiguillon, c'est précisément qu'on n'est ni dans de la résignation, dans le sens du c'est comme ça, et je me ferme en fait à l'émotion. Je me protège en fait face à ce que ça suscite parce que je ne peux qu'accepter sans joie la finitude qui m'est imposée. Et c'est pas ça la réponse de la foi. Mais c'est pas non plus justement la réponse de la fuite vers l'avant, dans le sens c'est une illusion, tu vas la dépasser. C'est pas du tout quelque chose à dépasser, la finitude. Une manière à dépasser dans le sens à surmonter de manière active, à régler, à résoudre, à terminer. C'est terminer la finitude, enfin, à arriver le truc transhumaniste en gros que moi j'ai en tête.
Ah, je suis tout à fait d'accord, mais moi je pense que des problèmes du transhumanisme actuel, c'est parce qu'on ne prend pas au sérieux, encore une fois, la vie éternelle qui nous est promise.
Je reviens là-dessus.
C'est qu'au fond, moi je pense dans une certaine mesure que c'est pas vrai que nous acceptons notre finitude. Moi je pense que c'est un peu du flan, qu'on est tout le temps en train de se la rappeler, d'en être absolument conscient, de se la rappeler, puis de l'accueillir, et puis oui, ça peut être très beau d'être fini, etc. Oui, bien sûr, parce qu'au fond, est-ce qu'on a vraiment le choix?
Le gars qui a l'air tellement convaincu de
ce qu'il dit.
Mais on se contente un peu de ce qu'il y a. Bien sûr.
Mais l'idée, c'est que finalement...
Il y a un peu un truc fataliste.
Tout
aussi.
À fait, il y a un fatalisme. Je suis d'accord avec vous, fondamentalement. Je ne dis pas... je fais un peu... Mais disons que si la nécessité de... Il y a une nécessité de surmonter la finitude, je pense, dans l'existence. C'est l'enjeu. Je pense que c'est un des enjeux de la spiritualité aussi. C'est-à-dire qu'au fond, nous soyons en mesure justement de transcender cette finitude. D'une part, effectivement, tu as raison pour lui donner du sens, pour l'accueillir, pour la transcender, c'est aussi l'accueillir quelque part, c'est en faire quelque chose, c'est vraiment être au cœur de cette finitude. Comment le Christ lui-même a éprouvé cette finitude plus que nous jusqu'au bout, et en l'occurrence, il vient nous signifier aussi qu'il y a un sens à la vivre. Ça ne veut pas dire que nous devons nous en extirper, mais nous sommes appelés, malgré tout, à plus. et parce que nous avons besoin, quelque part, c'est comme si on avait besoin de plus. Je pense que si nous pouvions être vraiment pleinement dans cette finitude, si nous n'étions pas pris dans cette contradiction interne qui serait celui d'en faire l'expérience et ensuite de faire le travail de l'accepter. Enfin, tu vois ce que tu soulevais toi-même au début, qui était une sorte de dialectique impossible. C'est-à-dire qu'en fait, on reste toujours dans cette espèce de... Ah bah oui, il y a quand même une volonté de... Quand même, il y avait quand même, dans ce que tu disais, la volonté d'accomplir quelque chose.
Mmh.
Et je pense que le fait que ce soit ancré en nous aussi est de l'ordre de l'appel.
Ouais, c'est justement autre chose qu'un besoin. Enfin,
c'est autre chose
qu'un besoin.
C'est autre chose qu'un besoin, on peut le qualifier autrement, mais...
Et tu sais, c'est pour ça que j'insistais sur le partage, c'est-à-dire que je m'ouvre dans l'approfondissement de cette finitude, j'entends autre chose aussi, et je peux entendre autre chose. Et il se trouve que moi aussi, tout en restant là-dedans, je peux aussi devenir porteur d'un partage de cette autre chose, qui ne nie pas pour autant la dialectique impossible dans laquelle je me trouve, comme tu l'as dit.
Oui, puis c'est ce à quoi nous appellent les Écritures.
Enfin,
je veux dire, à un moment donné, il y a eu une fin, et il y a la résurrection, quoi.
Oui.
Ouais. Mais c'est pas simple, si tu veux, à nouveau. Le point de densité et d'approfondissement que ça implique, il est infini aussi, là pour le coup, pour nous.
Oui, mais c'est parce que quand on fait l'expérience au plus fort de notre finitude, c'est celle de l'infini qui vient se dévoiler.
C'est ça.
Paradoxalement.
Donc on revient à la mystique. C'est
mais oui, il y a quelque chose de cet ordre. Ouais, ouais, ouais. Et je pense qu'une des problématiques aujourd'hui, c'est de vouloir compenser la finitude. La volonté de durer.
Ouais.
Par exemple, ouais. qu'est le projet d'arriver à des âges, peut-être 150 ans, enfin, grâce à la génétique, ou alors le fait d'avoir une conscience qui perdure grâce à des machines, et puis une conscience qui serait tout à fait crédible, c'est-à-dire qu'on pourra peut-être discuter un jour de manière crédible.
On sera encore là,
probablement, peut-être que oui, on sera tous dématérialisés et que nos enfants pourront discuter avec nous post-mortem, peut-être. Ça me paraît pas complètement absurde. Hein. Peut-être qu'à une époque, même faire des photos, ça paraissait de trop par rapport aux souvenirs vivants qu'on pouvait avoir des morts.
Oui, mais en fait, ce sera pas nous.
Non, ce sera pas nous. Mais ça pointe sur le fait qu'il y ait la nécessité de tout à chacun d'être dans quelque chose qui soit pérenne, en fait. Et en fait, il y a une mauvaise... Je dirais pas qu'il ne faudrait pas trop qualifier moralement, mais il y aurait un bon et un mauvais infini, quelque part. C'est-à-dire qu'il y aurait une sorte un réancrage dans notre finitude qui nous ferait comprendre quelle est la véritable dimension de l'infini.
Ouais. Bah, la vie éternelle, du coup.
Exactement, la vie éternelle, la promesse dans la résurrection... cet appel, en fait, de Dieu, et puis celui qui voudrait simplement durer, perdurer, sous n'importe quelle forme.
Oui, puis en fait, du coup, il y a un espèce de refus, moi je l'interprète aussi comme un espèce de refus de la mutation, du changement, dans le sens où, pour moi, et dans l'idée de la finitude, et du refus de la finitude, c'est le refus, parce que c'est quand on dit, dans la vie éternelle, il y a quoi ? Il n'y a pas le refus de la mort. Au contraire, il y a embrasser la mort et de dire, mais en fait, on croit que quelque chose perdure, recommence, continue, enfin, peu importe, il y a une forme d'élargissement, mais on doit accepter qu'il y a cette mutation-là. Alors que dans le mouvement transhumanisme ou quoi, quel que soit comment est-ce qu'on l'appelle, il y a cette volonté de maintien du même. Et en fait, c'est profondément le refus spirituel de l'altérité, de quelque chose qui vient de l'extérieur, du corps qui change, de Dieu, en fait, aussi. Et de dire, mais ce n'est pas moi qui me maintiens, c'est embrasser le mouvement de la vie, qui est beaucoup plus vaste, qui est beaucoup plus axé, justement, sur cette dynamique de mort et de résurrection. Et quand on peut parler de la mort d'une époque, d'un groupe, au sens d'une expérience qui se termine ou d'un groupe qui se dissout, etc. C'est aussi ça, c'est le refus de ce changement-là. Et par certains aspects, moi j'ai des fois l'impression que les mouvements identitaires, etc., c'est aussi un refus de l'altérité, un refus du changement, un refus du mouvement de la vie. Et au profit d'une espèce de volonté de s'accrocher et de maintenir le semblable, le même, la statique, l'absence d'ouverture.
Face à quoi, justement, tous les messages d'évangile donnent une résistance, à mon sens en tout cas, à ce mouvement-là.
C'est ça, et il n'est que ouverture... acceptation de quelque chose qui nous dépasse, surgissement de l'imprévu, de l'improbable, de miracle. Le miracle, c'est ça aussi, c'est le surgissement de l'ailleurs.
Donc vous l'aurez peut-être... Non, vous l'aurez peut-être pas compris. Moi, je suis en train de comprendre que nous sommes en fait en train de parler du jugement éternel, mais je vais laisser ça en point de suspension sur nos âmes et sur qui nous sommes là maintenant. Je interromps à dessein maintenant la discussion parce que je pense qu'on est prêt à se poser la question sur laquelle les capsules vont rebondir, sur ce qu'à partir de là, on peut encore attendre de la foi. Pour ces dernières capsules, j'ai demandé à Daniel Vanner et à Étienne Guillou de me faire un écho sur la question « Qu'attends-tu encore de la foi ?» On a parlé d'un bout de cette finitude de cette foi, mais là maintenant, c'est qu'est-ce qu'on peut encore en attendre ? Qu'est-ce qui va venir encore ? C'est la promesse qu'il y a dedans. Et puis, donc, Daniel Vanner, qui lui est président de conseil de paroisse, mais aussi engagé dans la finance. Et puis Étienne Guillou, qui est pasteur dans le canton de Vaud. On les écoute.
À la question « Qu'attends-tu encore de la foi ?» je répondrai que mon attente d'aujourd'hui ne diffère pas vraiment de celle d'hier. J'attends de ma foi qu'elle me porte et m'assiste dans les moments difficiles, qu'elle me permette de croire que Dieu sait ce qui est le mieux pour moi, dans les périodes de choix de vie, et particulièrement face à des difficultés ou obstacles qui semblent insurmontables. J'attends de ma foi qu'elle me donne force et confiance dans l'avenir, dans mes relations avec les autres et avec Dieu. J'attends également de ma foi qu'elle m'insuffle l'émerveillement par rapport à mon quotidien pour y percevoir l'éclat Dieu de Dieu. Enfin, en cas de doute, j'attends de ma foi qu'elle reste pour le moins une espérance à défaut d'une certitude.
La réponse rapide est que je n'attends absolument rien du tout de la foi. Par contre, la question demande qu'est-ce que j'attends encore de la foi. Et c'est encore, pour moi, résonne fortement parce qu'il vient présupposer qu'il y aurait quelque chose qui vient en plus, alors qu'il y a eu trop ou qu'il y a eu pas assez, que l'encore réveille cette idée que cette question de l'attente vis-à-vis de la foi traverse quelque chose de l'ordre peut-être d'une déception, peut-être d'un égarement, d'une saturation. Et j'aime bien voir cette foi comme véritablement ce choix tout à fait conscient, tout à fait audacieux, de pleinement prendre et savourer un risque qui a risqué peut-être de tout gagner, peut-être de tout perdre, mais qui en tout cas évite ce grand risque de ne pas saisir ce risque premier de la foi, de la confiance.
Merci Daniel, merci Étienne pour des capsules qui s'harmonisent pas. Enfin, je trouve intéressant de réponses quand même assez différentes à mon sentiment entre quelque chose que, en tout cas comme je le reformulerais moi, une validation de la foi comme confiance qui soutient le quotidien, qui permet de lui faire face et au fond comme une ressource aussi face à tout ce que le réel va nous envoyer d'ambivalent dans la gueule. Et puis de l'autre côté, la foi, ce qu'il y a encore à en attendre, moi je le reformulerais ça comme ça, c'est que face à la prise de risque, au fond, pour nous la prise de risque c'est de s'engager à croire qu'il y aura encore une surprise, que justement la saturation n'est pas tout ce qu'il y a à dire de la foi, que la foi que tout ce qu'on a pu dire au sujet de la foi n'a pas encore comblé ce qu'il y aura de surprenant et peut-être de miraculeux à vivre à la suite de cette foi. En tout cas, c'est comme ça que je le reformule. Étienne peut se rebiffer contre ce que j'ai dit en commentaire s'il le souhaite, mais moi j'irai dans ce sens-là. Donc oui, quand même c'est vraiment pas la même chose à mon sens d'attendre l'assise et la confiance, d'attendre le soutien ou d'attendre la surprise. de la part de la foi. Et voilà, c'est pour ça que je dis que c'est pas harmonieux, parce que c'est vraiment pas du tout la même chose que je vais pas me projeter du tout de la même manière sur l'avenir de la foi, sur l'avenir de ce qu'on peut dire à son sujet, sur l'avenir de ce qu'elle donne à vivre en fonction de ces deux attentes, en fait, là. Donc voilà, ça, je trouve que ça donnerait matière à discussion sur justement est-ce que même il y a quelque chose à attendre de la foi, qui est peut-être la question à se poser de fond. C'est peut-être pas la bonne question à la base, mais voilà. En tout cas, ça relève des tensions intéressantes à mon avis. Dimitri.
Oui, merci pour ton interprétation de ce qu'a dit Étienne. J'ajouterais à cette part de risque qui dirait que finalement, à risquer la foi, il y aurait quelque chose néanmoins qui pourrait émerger
encore à venir,
de beau,
ouais, c'est comme
de
ça
juste,
je le comprends.
Etc.
Ouais, ouais. Bah, de beau, juste, je sais pas, mais en tout cas ça ne va pas se limiter à la saturation, parce que c'est ça le point de départ, c'est qu'on n'a pas, en fait, c'est pas comblé. C'est pas, j'ai peut-être l'impression que c'est comblé, j'ai peut-être l'impression que voilà, ça s'est épuisé, mais non.
Oui. Il y a aussi quelque chose avec lequel on pourrait compléter cette approche, c'est de dire, mais et si la foi, c'était justement cette question-là, si on radicalisait un petit peu, peut-être que l'Étienne l'a entendu comme ça, mais que la question de la foi, c'était vraiment une question de vie ou de mort. Quand il dit, il faudrait, on pourrait tout perdre. On pourrait tout gagner. C'est-à-dire qu'en fait...
Le risque, hein, ouais, c'est ça.
Voilà, c'est-à-dire qu'au fond, vivre la foi comme étant la question, enfin, la vraie question, la seule question, le seul vrai risque de l'existence.
Est-ce que je suis prêt à faire confiance? Est-ce que je suis prêt à m'ouvrir à cet événement?
Voilà, exactement. C'est-à-dire que ce serait la question initiale. Le oui ou le non. Et qu'en fait, ce oui ou ce non... déterminerait l'ensemble de mon existence.
Là, formulé comme ça, j'étais un peu perplexe par rapport à la question, mais formulé comme ça, ça me rejoint déjà beaucoup plus. Parce que finalement, pour moi, dans la question « qu'est-ce que tu attends encore de la foi ?», c'est comme si la foi était posée comme extérieure et ma résistance, elle vient de là. Mais en fait, moi, je ne peux pas distinguer ma foi de mon existence, de moi. En fait, elle fait partie de moi, elle est ancrée en moi, elle est là malgré moi. Donc, si je devais répondre à cette question-là, par rapport à ce que tu disais aussi, c'est justement de pouvoir continuer à grandir, à évoluer avec cette foi, aux côtés de cette foi, à nourrir cette foi et de voir aussi comment ma foi nourrit ma vie. Enfin, mais en fait, ça va ensemble, profondément. Donc, qu'est-ce que j'attends de la foi? Je ne sais pas, je n'ai pas choisi ça par utilitarisme. Donc, en fait, j'en attends rien. Et c'est là où la première réaction d'Étienne est... Enfin, je consonne un peu à dire, mais en fait, cette question...
Qu'est-ce que j'en fais, en fait? C'est pas, voilà. Ça ne me rejoint pas du tout dans ma conception de la foi, en fait, de le poser comme ça.
C'est ça.
Mais je contrepoint là-dessus, parce que... Pourquoi j'ai pensé à cette question justement maintenant à nouveau sur le niveau méta, on a parlé de la foi, on en a fait quelque chose, et au fond la foi c'est disponible comme truc dans la culture, dans la société. La foi c'est un objet culturel parmi d'autres, il y a nos églises d'ailleurs qui sont la foi, on pourrait dire, hein, je suis dans la société, il y a les églises, ça c'est la foi.
C'est la tradition chrétienne.
Oui, c'est la tradition chrétienne, c'est
tout
un tas de choses.
C'est la religion comme phénomène.
Mais c'est aussi... la parole, ça peut être justement cette description-là, mais ça peut aussi être la parole d'autrui qui m'interpelle, la parole de foi d'autrui qui me rejoint tout d'un coup dans ma propre préoccupation, dans mon propre train-train, ou au contraire dans le partage de foi, je sais pas, au culte, quelqu'un qui tout d'un coup vient m'interpeller sur un truc qui lui l'habite profondément, qu'il partage, et tout d'un coup ça vient chez moi aussi. Justement, moi, j'ai envie avec cette question, j'ai envie de susciter l'appel d'espérance qu'en fait, c'est pas fini, que justement, il y a encore, que c'est pas comblé, que c'est pas saturé en définitive. C'est peut-être un peu pour provoquer, mais que il y a encore un truc à s'exposer et à partager. J'avoue que moi, je raisonne bien avec la manière dont Étienne a posé la chose. Et en même temps, je suis très touché par ce que Daniel a posé au début, qui est de dire, mais en fait, c'est aussi quelque chose qui, au temps long, nourrit, te soutient, t'amène plus loin, sur lequel tu, c'est pas juste, comment dire, l'abîme sans fond sur lequel la question, comme tu dis, le oui et le non qui me sollicite jusqu'au plus tréfond de mon âme, c'est pas que ça, c'est aussi quelque chose qui est là et sur lequel auquel j'ai pu identifier des ressources pour affronter le quotidien, quoi. Et je pense que c'est les deux vérités au sujet de ce qu'on appelle la foi, ces deux éléments-là.
Oui, puis, ouais. Mais c'est aussi dû au fait que tu la nourris ou tu la nourris pas, cette foi. Enfin, par rapport à ce que disait Daniel, c'est ça? Mm-hmm. L'enjeu, c'est... cette foi-là, elle va te permettre d'affronter la vie, entre guillemets, si tu la nourris, si tu lui laisses une place, si tu...
Si tu consens aussi à rentrer dans un certain jeu, une certaine habitude, peut-être.
Ouais, je ne sais pas si c'est rentrer dans un jeu, mais... Et on en revient peut-être à la question de la vie chrétienne, d'un certain appel, d'une certaine exigence. Oui, tu peux attendre quelque chose de la foi. Peut-être que si toi, tu fais en sorte qu'elle ait cette force-là...
Elle ne l'aura pas forcément toute seule non plus, quoi.
Je ne suis pas sûre. Ou peut-être que elle l'a, malgré toi. Mais voilà, on est sur une tension, on est sur une ligne... qui n'est pas très clair entre ce qui est la foi et ce que n'est pas la foi.
Oui, on revient à la discussion qu'on a eue dans le dernier épisode, justement. L'avant-dernier épisode. Ouais. Et je trouve les deux portes d'entrée se valent, si tu veux. Parce qu'il y a des fois, aujourd'hui, l'invitation à... En fait, l'exigence, tout de suite, le poser au niveau existentiel, des fois, c'est de mettre une telle charge sur le truc, entre guillemets, si tu n'es pas profondément interpellé à chaque fois, c'est que tu n'es pas vraiment dedans, ou du moins il y a une espèce d'attente surdimensionnée qui peut être liée à la foi, alors que de l'autre côté, ça peut aussi dire, non mais en fait, c'est pas que ça, c'est aussi justement, peut-être que ça commence, si tu t'intéresses à la foi, mettons, par exemple, que si je m'y intéresse, je ne suis pas dedans, mais ça m'intéresse, ça m'intrigue, en même temps, apparemment, il y a des gens qui la vivent de manière plus ou moins intense, il y a quelque chose à approfondir, mais en fait, on peut, avec confiance, se lancer sur un chemin de découverte aussi. Et c'est une autre manière d'entrer dans le sujet. Et puis, je n'exclurai pas les deux, mais elles sont clairement pas... Il y a une tension, là, en fait. Et une tension non pas à évacuer, non pas à résoudre, je veux dire, moi, justement, à approfondir et puis à assumer aussi que, sans doute, ça a des impasses des deux côtés, quoi, en définitive.
À un moment donné, t'as dit « ce n'est pas que ça ». Et du coup, à un moment donné, tu as dit, c'est pas que ça, ce oui et ce non de la foi. Et du coup...
J'ai relativisé ce que tu as dit avant.
C'était pas, non, mais c'est pas... C'est, non, mais c'est plutôt théologique, justement. Mmh. C'est que si c'est que ça, alors c'est rien du tout. Mmh. Ça veut dire que si on prend au sérieux cette affirmation qu'il y a un oui de la foi qui change tout, alors c'est pas que ça. C'est-à-dire que c'est tout ça. C'est la question initiale. Il n'y a pas de... Tu ne peux pas le mettre à côté. Alors, il y a peut-être une foi qui s'inscrit dans la continuité, à travers des pratiques, à travers ce qu'on appelle la vie chrétienne. Mais cette foi du oui et du non, qui est changée, qui est censée tout changer, se repose déjà tout le temps. Enfin, ce n'est pas comme une affirmation d'une appartenance à un parti politique ou christianisme. Là, je sais, je suis chrétien, je l'affirme, et il y a une continuité.
Je suis inscrit au registre.
Mais ce oui et ce non... ce oui et ce non, c'est ce risque-là, il se repose constamment. Parce qu'en fait, quelles seront toutes les implications sur ma perception de l'ensemble de mon existence à partir du oui de la foi, par exemple. Ou alors partir du non, parce que je peux dire non.
Je refuse à la faire.
Je peux dire non, j'ai le droit de dire non. Parfois, je dis non.
Et la foi,
qu'est-ce que ça
pas
change? Oui, mais tu vois, c'est presque une expérience initiale, c'est-à-dire qu'en fait, ça va changer ma perception du temps, déjà. Ça va changer la perception de ma vocation, de comment je m'inscris dans la durée, de comment je vois, effectivement, comment je vois l'après, ou comment je conçois mes relations humaines. Ça peut changer aussi le rapport que j'ai aux choses matérielles, à mes possessions, à moi. Donc, en fait, le oui de la foi, c'est reconsidérer la temporalité même de mon existence. C'est-à-dire que tout change du moment où je m'inscris aussi dans une temporalité qui est celle, par exemple, d'une attente. Ne serait-ce que de l'attente du Messie ou alors du fait que, qu'il soit advenu et que nous soyons dans des temps, on va dire, kénotiques, d'intermédiaires, d'attente, de retenue, etc. Lorsque je dis non à la foi, je suis de nouveau dans cette temporalité, on va dire, plus cycliques, faites de répétitions, faites effectivement d'une certaine forme de, voilà, de durée, mais dans le sens voilà, de relance. Mais la vraie relance, fondamentalement, c'est lorsque mon existence, pas seulement selon ses conditions, mais mon existence comme telle, qui est redéplacée, redéfinie, reconsidérée à l'aune de cette foi. Donc c'est pour ça que c'est tout ça. Et cette question se repose constamment. Je pense qu'elle est, elle est pas solvable. Nous restons dans cette alternative-là. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir les choses de cette manière parce que ça nous permet de nous réinterroger sur l'ensemble de ce qui change ou de ce qui ne change pas. Et je ne peux pas totalement en décider. C'est-à-dire que je peux te dire un oui, très volontaire, mais je ne décide pas des effets de ce oui. Ils sont incommensurables. Et je ne pèse pas non plus les effets du non, qui sont eux aussi incommensurables sur la manière que j'ai de me considérer ou de reconsidérer l'ensemble de la marge du monde. Voilà, donc c'était simplement pour rajouter,
redonner
un peu du poids à cette affirmation qu'on a repris de Étienne.
Dimitri, tu m'offres une magnifique planche pour rebondir sur la dernière question que je voulais nous poser en conclusion de ce podcast et peut-être aussi un peu en guise d'envoi à vous qui nous écoutez maintenant. Peut-être que juste cet épisode-là, ou si c'est ceux qui nous suivent depuis le début. Donc voilà, ce sera gentiment le mot de la fin. La question avec laquelle on va finir cette saison, elle est assez simple. Au fond, qu'est-ce que là maintenant, je garde comme élément pour moi de ce parcours qu'on a fait, des longues discussions qu'on a eues les trois, qu'est-ce que je garde et peut-être qui continue à m'accompagner sur ce chemin de foi qui était le point de départ de notre petite aventure à trois et puis avec vous qui nous écoutez. Sophie, je te donne la parole.
Peut-être qu'il y aura des redites par rapport à ce que vous allez partager, mais moi je garde quand même une vraie richesse de nos échanges, de nos discussions, qui m'ont parfois un peu frustrée, un peu questionnée, un peu interrogée, mais à la fois dans les proximités que j'ai ressenties avec vous au cours de nos discussions, et puis des fois aussi sur le sentiment d'être différente, de pas partager ce que vous vivez. Et de ça, je garde une vraie richesse et une vraie volonté de continuer à avoir des discussions comme ça, parce que ça m'a aussi... je me suis sentie très proche, j'ai aimé... peut-être pour les auditrices et les auditeurs, vous vous rendez pas forcément compte des conditions dans lesquelles on enregistre, mais moi, je garde ce sentiment de volonté de faire silence autour, de construire un peu un espèce d'espace sacré, une espèce de bulle où voilà, on enregistre, donc on est un peu coupé du monde, personne vient nous déranger. Et c'est vraiment ce sentiment d'intimité, en fait, paradoxalement, alors même qu'on enregistre quelque chose qui est destiné à être partagé. Donc pour moi, c'est ça que je garde, cette volonté d'avoir plus de discussions comme ça, avec vous, avec d'autres, parce que c'est vraiment précieux. Et on se découvre aussi chemin faisant. On découvre l'autre, les autres, les interactions qu'on peut vivre entre nous. Et on se découvre aussi un peu soi. Donc, merci beaucoup pour tout ça.
Merci, Sophie. Dimitri.
Oui, merci, Sophie. Moi, j'ai vraiment passé des moments magnifiques avec vous. J'étais très, très heureux, vraiment, des échanges théologiques qu'on a eus ensemble. Et vraiment, vraiment, je ressors avec une amitié profonde pour vous deux. Et c'est la preuve qu'on peut avoir des discussions théologiques et que ça ne mène pas, au contraire, à la catastrophe, mais vraiment à quelque chose qui nous... On a été reliés aussi par quelque chose de l'ordre de la discussion théologique. C'est peut-être un encouragement pour tout à chacun, justement, à mettre sur pied ce type de moments de discussion, d'élaboration, d'échange. Bien sûr, c'est important d'avoir quelques affinités initiales, mais néanmoins, ça a été pour moi très, très gratifiant dans l'échange avec vous. ce que j'ai appris, ce que j'ai appris avec vous, c'est une qualité de la discussion. Parce que, en fait, je réalise que j'ai jamais vraiment eu l'occasion jusqu'à maintenant de passer en tout et pour tout une bonne dizaine d'heures, en fait, si ce n'est plus parce qu'il y avait les avant et les après, à vraiment discuter de théologie de manière libre et avec cette intensité et cette amitié-là. Donc, du coup, je ressens avec vraiment voilà, une belle expérience que j'aimerais bien recommencer, pour le coup. Mais surtout que je souhaiterais continuer, puisqu'en fait, pour nous, de mon point de vue, on pourrait continuer très très longtemps. Voilà, ce sont vraiment... C'est plutôt lié à des circonstances qu'on doit s'arrêter. Mais on pourrait continuer assez longtemps, j'ai l'impression, encore la discussion. Et si on se répète un peu, c'est pas très grave, en fait. Parce qu'on se répète... Il y a même quelque chose de rassurant dans le fait de se retrouver les uns les autres à peut-être parfois répéter les mêmes choses. C'est aussi un peu comme dans les familles, au bout d'un moment, on se raconte les mêmes histoires. Et c'est pas plus mal, c'est aussi ce qui génère des affinités plus profondes. Et voilà. Donc du coup, merci Elio, merci Sophie pour ces beaux moments. Et je me réjouis de la suite.
Pour moi, c'est vrai que... Voilà, c'est aussi la question du format, c'est que j'anime ce podcast, il y a cette saison qui arrive à son terme, et puis c'est toujours la question, qu'est-ce qu'on fait après? Pour moi, comme sur quelle base, sur quel rail je me relance, est-ce qu'on refait la même chose justement? Est-ce que ça, on aurait pu simplement continuer la discussion? On verra. C'est pas encore écrit dans quel sens ça va aller. Mais quelque chose du coup que je retiens par rapport à cette saison, et vraiment c'est un bout d'enseignement que je reçois de nos échanges, c'est quelque part de ne pas vendre trop vite la thématique ou les expériences de joie et de ce qu'elles ont de nourrissant et de profondément ancrant, je ne sais pas, dans le réel, dans la foi. Justement, moi j'ai tendance à des fois peut-être aller très vite dans des confrontations tragiques et puis à ce qui nous bloque. Et puis là, moi voilà, c'est quelque chose que je retiens de nos échanges, c'est vraiment le moment de la joie et de tout ce qu'il cristallise, de tout ce qu'il contient comme un lieu ressource, comme un finalement aussi un lieu à partir duquel partager et à partir duquel peut-être aussi se confronter et justement pouvoir rentrer dans une confrontation qui est autre chose que destructrice. Et ça, c'est quelque chose que je retiens de nos échanges et justement aussi un bout d'encouragement à cultiver des espaces de dialogue comme celui-ci pour nous et puis pour aussi, comme tu l'as très bien invité Dimitri, je trouve aussi pour celles et ceux qui nous écoutent. Si ça vous a parlé comme truc, autorisez-vous ce genre de discussion. Ça ne fait de mal à personne. Et peut-être même que quelque chose de plus grand va en grandir. Donc allez-y, gaillardement. Merci pour votre parole, pour vos échanges, pour tout le temps que vous avez pris. Pour toi, Sophie, pour toi, Dimitri, et puis aussi pour vous qui nous avez écoutés tout du long. N'hésitez pas à continuer le partage. Cette saison arrive à son terme, mais le contenu va exister et continue d'exister voilà, sous cette unité-là, sous cette forme-là. Peut-être que ça vous a donné matière à réfléchir, peut-être que ça vous a questionné, ça vous a choqué, ou au contraire, ça vous a donné rassuré, consolé, donné de la joie. N'hésitez pas à partager voilà, en commentaire, sur les réseaux, ces épisodes, son contenu, si ça vous parle, à le valoriser. Nous, ça nous permet de le faire ressortir et à le faire rayonner auprès de plus de monde encore. Portez-vous bien et on se retrouvera dans une autre saison, dans un autre contexte. D'ici là, ciao.